Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute.
Bonjour Fanny Viry.
Bonjour.
Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signes faibles des mondes de demain. En 2022, la Nef est à nouveau le partenaire de ce podcast. C'est un soutien essentiel qui me permet de vous proposer deux épisodes par mois. Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore la Nef, il s'agit d'une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. C'est un partenaire évident qui travaille à faire d'ores et déjà à devenir les 2030 glorieuses. Fanny, toi, tu es la cofondatrice de l'Institut Transition dont nous allons parler aujourd'hui. C'est un institut qui forme, outille et accompagne les personnes et les structures qui s'engagent en faveur de la transition écologique et solidaire dans la région lyonnaise, mais pas que. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux d'Anciela pour cette interview et nous parlerons ensemble de formation au nouveau paradigme, d'apprentissage tout au long de sa vie et plus largement de comment se préparer à l'incertitude. Mais la question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe dans le podcast 2030 Glorieuse, Fanny, pour commencer, c'est imaginons tu es à une soirée et tu rencontres de nouvelles personnes et forcément arrive cette question tant redoutée. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu leur réponds quoi?
Et c'est toujours un moment où je me demande comment je vais prendre les choses, justement, parce que c'est pas si facile de l'expliquer. Moi, en fait, je suis un peu un pied dans deux structures, donc les deux structures que tu as évoquées. Je suis permanente à Anciela depuis presque 10 ans. Donc Anciela, qui est une association qui a vocation à donner envie d'agir aux personnes en faveur d'une société plus écologique et solidaire, mais surtout à les accompagner dans leurs engagements et dans leurs initiatives pour qu'ils puissent s'impliquer concrètement au jour le jour sur ces questions-là. Au sein d'Anciela, je coordonne en particulier une pépinière où on accompagne des personnes qui lancent des associations et des entreprises de transition. Et puis, je suis engagée depuis 3 ans maintenant dans une seconde association, l'Institut Transition, où je forme et j'accompagne des personnes et des structures sur ces questions-là.
Ouais, tu en es la cofondatrice et à la fois tu dis, tu formes, tu accompagnes des personnes qui veulent vraiment, elles en l'occurrence, mettre leur engagement professionnel à faveur de ce que vous appelez la transition. Est-ce qu'on pourrait passer un tout petit peu plus de temps sur cette casquette-là, concrètement? Et si jamais on devait renommer le métier que tu fais à l'Institut, quel intitulé tu lui donnerais?
C'est une bonne question. Je pense que moi, si vraiment je devais définir quel est mon métier, c'est vraiment celui d'accompagnatrice. Au sens où aujourd'hui, on voit énormément de personnes qui ont l'intuition qu'elles auraient quelque chose à apporter à la société, qui ont l'intuition que les choix qu'elles ont faits ou qu'elles n'ont pas faits jusque-là les ont amenées dans une situation où elles ne se sentent pas utiles ou au service de ce qui leur tient à cœur. Et pour moi, au sein de l'Institut, mon métier et mon rôle, c'est vraiment de les accompagner à écouter cette petite voix qui est en elles et qui leur dit qu'elles ne sont pas à leur place, à lui faire confiance pour les amener à cheminer et à trouver un endroit dans lequel non seulement elles seront bien, mais où en plus elles contribueront au bien commun.
Donc accompagnatrice à l'accomplissement professionnel, quelque chose comme ça?
Oui, je pense que c'est vraiment à l'accomplissement personnel, mais au service de la transition. Enfin, pour moi, c'est vraiment les deux jambes sur lesquelles on doit marcher à l'Institut, c'est de dire ben, il s'agit que tu trouves ta place à la fois parce que c'est bien pour toi, c'est ce qui va te permettre de te sentir aligné, mais c'est pas que pour ça, en fait. C'est aussi parce qu'aujourd'hui, on est confronté à des crises écologiques, solidaires, qui nécessitent qu'on se mobilise et qu'on contribue chacun en fonction de qui on est. Et donc, voilà, je rajouterai cette notion de transition, c'est à l'accomplissement professionnel, mais aussi à la contribution active au monde qu'on a envie de voir advenir.
Ouais, on parle de plus en plus hein, de remise parmi le vivant, au service du vivant. Anciela, vous êtes la soul lyonnaise que tout le monde connaît, que tout le monde a identifié dès qu'on parle d'engagement. Vous êtes vraiment le phare dans la nuit pour toutes les personnes qui veulent justement se remettre au vivant. Et toi, comme tu le disais, tu y travailles depuis plus de 10 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer cet engagement que tu avais dans la région lyonnaise au service de ces thématiques, mais encore une fois avec cet axe plus professionnel, plus axé métier?
Pour la petite anecdote, Anciela, ça vient de Ancilla en latin, qui veut dire la servante. Et pour le coup, ça veut vraiment dire deux choses. Ça veut dire à la fois que nous, on se met au service des personnes et de leur engagement, mais qu'il y a aussi cet enjeu de se mettre au service du vivant et de choses qui nous dépassent. Juste pour rebondir sur ce que tu disais.
Je ne savais pas.
Ouais, c'était la petite anecdote du moment. Après, sur pourquoi est-ce que j'ai eu envie de continuer finalement cet engagement que j'avais déjà à Anciela plutôt au service des évolutions professionnelles, c'est parce qu'en fait, au quotidien, à Anciela, on voyait très souvent et de plus en plus souvent des personnes passer la porte en nous disant... Ben voilà, je me sens pas à ma place, je me sens pas utile, j'ai eu des prises de conscience écologiques qui m'amènent à me dire que je peux plus continuer ma vie comme avant. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et à ce moment-là, on avait relativement peu de propositions, on pouvait leur dire ben engage-toi bénévolement, tu retrouveras du sens en dehors du travail, on pouvait leur dire entreprends. Mais tout le monde n'a pas envie d'entreprendre. Et donc, finalement, un certain nombre de personnes restaient un petit peu sur la touche. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui a commencé vraiment à nous travailler. Moi, Martin, d'autres à Anciela, et puis d'autres qui gravitaient autour d'Anciela. Et il y a à peu près 3 ans, on s'est dit... non, vraiment, il faut y aller. Il faut y aller parce qu'il y a ces personnes et que ces personnes, c'est un immense gaspillage humain. C'est des personnes qui auraient des choses à apporter, des choses qui ont de la valeur et qui ne... Voilà, qui reste un peu enseveli sous un terreau de contraintes. Et en même temps, on voyait aussi tout un tas de structures de transition émerger avec un vrai enjeu de pouvoir accueillir des futurs professionnels compétents, acculturés, pour continuer à avancer. Et on s'est dit que voilà, on avait un rôle à jouer, on s'est lancé.
Vous n'êtes pas les seuls à avoir identifié ce besoin. Cyril Dion, il dit que c'est un peu une contradiction avec un exemple frappant de dire bon ben en fait je vais au travail à vélo mais je travaille chez Monsanto. Donc là clairement il y a le besoin de cohérence, d'aller jusqu'au bout, de pousser vraiment sa réflexion et donc son envie d'engagement. Il y a Ticket for Change aussi qui a fait une grande étude sur le gâchis de talent, ça date d'il y a quelques années. Mais en gros il y avait de mémoire 90% des Français qui avaient envie de contribuer à résoudre des problèmes de société et seulement une vingtaine de pourcents qu'il faisait. Et donc il mesurait ce delta à plus ou moins de mémoire, 74 je crois, pourcent de Français qui gâchaient leur talent parce que comme tu le dis, toutes ces années passées à faire des études, à développer des compétences, à se lever chaque matin avec toute son énergie, toute son envie pour faire quelque chose qui en fait ne nous plaît pas et qui en plus détruit la planète, c'est complètement con pour le dire comme ça. Donc vous avez développé des formations et si je dis pas de bêtises, vous avez plusieurs parcours à l'Institut. Je dis pas de bêtises même parce qu'en fait je dois vous avouer que j'y participe un petit peu depuis cette année à l'Institut en accompagnant des personnes qui justement doivent notamment produire un mémoire. Mais j'aimerais bien que tu nous racontes quels sont les guichets que vous avez créés avec l'Institut Transition pour justement ces personnes qui ont envie d'aller plus loin que l'engagement dans la vie du quotidien.
Oui, en fait, ça fait 3 ans qu'on a lancé l'Institut, mais 2 ans que des programmes ont lieu effectivement. Et avec le temps, on a précisé et enrichi nos missions. Notre première mission, donc c'est ce qu'on évoque là, c'est l'accompagnement des personnes en évolution professionnelle. Donc je vais revenir plus précisément dessus. Mais on a deux autres missions qui se sont rajoutées depuis et que je vais peut-être présenter rapidement. Il y a d'abord le fait de former et d'accompagner les professionnels et les dirigeants ou dirigeantes des structures de la transition, puisqu'on se rend compte qu'eux-mêmes ont des vrais enjeux de formation et de soutien pour continuer à faire grandir les alternatives dont on a besoin. Donc voilà, ça c'est vraiment notre gros objectif de l'année, de leur proposer des formations qui sont adaptées à leurs besoins pour leur permettre de se sentir plus fort pour la suite. Et puis la dernière mission, c'est de pouvoir former des structures classiques qui ont envie d'intégrer ces enjeux de transition au quotidien. C'est souvent provoqué par des personnes qui, en interne, sentent qu'il y a ces enjeux-là, qui ont envie de faire bouger les choses à leur échelle et qui nous appellent en disant bah voilà, ça va permettre de faire bouger les lignes, de former mes équipes, mes managers sur ces questions-là. Donc voilà, c'est un autre axe qu'on développe.
Oui, mais... parce que souvent, je me permets, avant que tu rentres dans le vif du sujet des formations de l'Institut, on entend, on constate que parmi les structures de la transition, on a un écart entre les volontés affichées et les capacités à bien accueillir les personnes qui travaillent dans ce milieu-là, vraiment avoir aussi une capacité à travailler de manière plus horizontale. Enfin, il y a un vrai souci de formation. Et si là, comme vous l'entendez peut-être d'ailleurs, on est en ciel là, on a des gens qui sont heureux et épanouis au travail et ça s'entend, c'est pas forcément le cas dans toutes les structures.
Oui, puis je dirais que même à Anciela, on a plein de dimensions sur lesquelles on doit progresser. Je pense que pour comprendre ce qui se joue dans beaucoup de structures de la transition aujourd'hui, que ce soit des associations ou des entreprises, je dirais, qui ont émergé au cours des dernières années, c'est qu'il faut se dire que souvent, elles ont été créées par des passionnés. Par des passionnés de biodiversité, de réduction des déchets, qui ont vraiment, comme exemple, hein, mais je pourrais faire la liste de plein d'autres thématiques.
On n'a que 45 minutes, Fanny,
ouais.
Donc voilà.
Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles agir. Mais... En fait, entre la passion et la direction ou le management d'équipe, y a un monde et il y a tout ce travail-là de réussir à passer d'une aventure personnelle et collective à une aventure professionnelle, et ça nécessite le développement de nouvelles compétences et c'est ça qu'on essaye d'accompagner. Voilà, pour être plus sur ta question initiale,
ouais,
voilà, et refermer ma parenthèse les évolutions, l'accompagnement des évolutions professionnelles, ce que nous on propose, c'est un programme principal qui s'appelle Nouvelle Voie, qui est un programme d'un an qui articule formation et accompagnement et qui s'adresse à des personnes qui ont déjà potentiellement fait des études, mais qui ont surtout déjà travaillé et qui se disent voilà qu'elles ont envie de changer, qu'elles ont envie de mettre leurs compétences au service de la transition. Et donc, on leur propose à la fois des modules de cours pour se créer une vision, mais aussi s'outiller pour être en capacité de mener des projets de transition. On a un mémoire que tu évoquais, qui est vraiment une brique importante, même si elle peut faire un peu peur au premier abord, puisque c'est ce qui va permettre à une personne de choisir un thème qui l'anime plus particulièrement pour creuser sa réflexion et se créer une expertise qui lui permettra d'être reconnue par le monde de la transition derrière. Et puis, il y a des missions de terrain que les personnes peuvent faire auprès d'associations, d'entreprises, d'institutions pour, d'une part, se sentir et être utile, mais aussi venir valider ou invalider leur projet et pour se créer un réseau.
Donc on est à la fois dans une compréhension théorique de ce milieu, vous éclairez les personnes qui parfois ont eu une intuition de vouloir s'engager dans cette tendance et qui ont encore du mal à visualiser les contours hein, de ce milieu qui est en plus très changeant, très évolutif, tout va être très très vite, et vous faites aussi travailler les mains. Vous mettez les gens directement en action parce que c'est aussi le meilleur moyen d'expérimenter ce qui plaît, ce qui plaît pas, et de savoir vraiment là où on se sent le plus à l'aise en fait.
Oui, C'est vraiment fréquent que je dise aux personnes qui ont envie de mieux se connaître que, bien sûr, toutes les démarches d'introspection sont importantes, mais que finalement, on se découvre aussi en faisant, en se mettant en action, en allant rencontrer des gens, et que c'est tout aussi nécessaire pour savoir un petit peu mieux qui on est et comment est-ce qu'on a envie de contribuer.
Et sociologiquement, les participants à cette formation, est-ce qu'on retrouve des profils qui se dégagent un peu? Est-ce qu'en fait, on a des gens de 28 à 68 ans? Raconte-moi.
Eh bien, pas très loin. On a, c'est vrai, une grande diversité d'âge, puisque que ce soit l'année dernière ou cette année, on avait des personnes qui avaient, je dirais, entre 25 à 30 ans jusqu'à 55 à 60 ans. Donc, on retrouve quand même différentes générations. Et en termes de métier, on voit une vraie diversité avec quand même pas mal d'ingénieurs en quête de sens, mais aussi des personnes qui viennent plutôt du commerce et du marketing, de l'agronomie, du travail social. On a aussi des enseignants. Donc, je pense que c'est aussi ce qui participe de la richesse du programme, c'est finalement d'avoir des profils et des expériences très diverses, mais qui se retrouvent autour d'une même intention de contribuer à la transition.
C'est encore tout récent, hein, l'Institut, tu le disais. Vous avez 2 ans de véritable existence. Et à la fois, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question sur les retours que vous avez eus déjà des apprenantes, des apprenants qui sont sortis de l'Institut, peut-être sur leur évolution professionnelle, l'impact dans les entreprises dans lesquelles ils évoluent désormais. Est-ce que vous avez eu comme ça des retours?
Ah oui, alors je pense qu'il y a différents niveaux d'impact qui sont plus ou moins quantifiables. Là, actuellement, on est en train de regarder le taux d'insertion professionnelle. Donc, j'ai pas les derniers chiffres, pardon, puisque l'enquête est en cours, mais on se rend compte que là, on a vraiment une grande majorité des apprenants de l'année dernière qui sont désormais insérés professionnellement dans des structures de la transition du territoire et avec vraiment des premiers retours extrêmement positif, que ce soit d'eux-mêmes avec une vraie satisfaction et un vrai bonheur au travail, mais aussi de leurs employeurs qui disent qu'ils ont des personnes qui viennent avec des compétences, mais aussi avec une acculturation et une compréhension des enjeux qui est souvent ce qui manque à des profils qui viennent de mondes un peu différents. Mais je dirais que j'ai envie d'insister sur 2 autres dimensions qui sont peut-être moins perceptibles dans l'enquête qu'on est en train de faire. La première, c'est que je suis très, très touchée de voir qu'à tous les événements interassociatifs auxquels je vais aujourd'hui, je retrouve des anciens apprenants qui sont impliqués dans toutes les associations du territoire et qui le sont avec engagement, passion et aussi compétence. Donc il y a l'insertion pro, mais il y a aussi l'insertion citoyenne qui, pour moi, est tout aussi importante. Et le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est que le nombre de personnes que je vois avoir pris confiance en eux, c'est assez énorme. On voit beaucoup de personnes qui arrivent au sein de Nouvelles Voies avec énormément de doutes sur qui ils sont, avec peu de confiance en eux, parce que peu de fierté aussi du parcours accompli jusque-là. Et intégrer Nouvelles Voies, c'est une prise de risque qui les amène souvent à retrouver énergie et estime de soi. Et ça porte quand même vraiment du fruit par la suite.
Vous avez encore une fois que 3 ans d'existence et 2 ans d'être présent là directement avec la formation, avec des apprenants. Et j'imagine que vous bouillonnez d'idées, de perspectives, d'évolutions. Tu peux nous en présenter quelques-unes, là, des évolutions à venir pour l'Institut ?
Alors sur Nouvelles Voies, je dirais que pour l'instant, on est plutôt sur une stabilisation, puisque voilà, on est en train de continuer la 2e année. On recrute les futurs apprenants pour l'année prochaine avec éventuellement l'envie d'ouvrir une 3e promotion, puisqu'actuellement, on a 2 promotions de 25 personnes à chaque fois, donc 50 personnes par an. L'année prochaine, on a l'ambition, on verra si on y arrive, d'avoir 75 personnes. Mais sinon, je dirais que les contours sont à peu près stabilisés. C'est plus des petits ajustements à la marge. Après, pour l'instant, Notre souhait, c'est vraiment de se centrer sur cette mission de formation des structures de la transition, dont je parlais rapidement tout à l'heure, puisqu'on sait qu'il y a énormément de besoins et que c'est aussi une manière de créer les conditions pour que les apprenants de nouvelles voies intègrent des structures dans lesquelles ils se sentiront bien et qui auront aussi les moyens de continuer à recruter des personnes. Donc l'idée, c'est de boucler un petit peu la boucle pour avoir à la fois les nouveaux professionnels, mais aussi des vraies structures pour les accueillir.
C'était vraiment passionnant, Fanny. Merci pour cette présentation de ton métier et de ton rôle au sein de l'Institut et de ce que vous faites pour accompagner ces personnes. Je pense que vous devriez presque être remboursé par la Sécu tant vous permettez d'éviter les crises de la quarantaine, cinquantaine qui sont en train de devenir des crises de la trentaine et d'ailleurs dont vous devez récupérer certaines personnes un peu après cet état-là. Nous, on va voyager en 2030 glorieux. Je ne sais pas s'il y aura encore des crises professionnelles en 2030 glorieux. Je pense que si, quand même. Mais toujours est-il qu'on va imaginer un monde où les missions de l'Institut se sont largement démocratisées, normalisées. Mais avant ça, l'invité vient toujours avec une bulle d'inspiration qu'elle va dénicher dans une lecture qui, en général, en fait, nous entoure et était présente autour de nous depuis belle lurette. Tu vas nous lire un passage d'un texte qui représente, selon toi, des valeurs, des éléments forts qui se retrouveront en 2030 glorieuse. Lequel est-ce ?
Eh bien, c'est un extrait d'un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle L'intranquillité et qui a été écrit par Marion Müller-Collard. Donc, c'est une éloge à l'intranquillité et donc je vais vous en lire un passage. Tu te trouves dans cette zone d'inconfort de la vie, dans l'entre-deux d'un choix, dans l'après d'une déchirure, dans l'avant d'un risque, dans le regret ou dans la peur. Tu te trouves à la margelle du puits, à la frontière de tous tes vertiges, et tu voudrais combler la bouche noire et insondable. Tu perdrais alors toute chance de remonter, des profondeurs une eau vive. Alors puise. Ne t'épuise pas en dispersant ton écoute. Écarte-toi des vains conseils de ceux qui ignorent le risque et qui se parlent à eux-mêmes. Bois la source de ton courage, puise. Jette loin le seau qui sonde au plus profond pour y trouver l'eau claire. Ne t'épuise pas à croire en quelques solutions. Garde ta soif intacte, c'est elle qui te relèvera.
Merci Fanny. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce passage en particulier ?
J'ai choisi ce passage parce que ça fait vraiment écho à beaucoup de situations d'accompagnement que je peux vivre avec notamment des personnes qui évoluent professionnellement et qui à des moments se retrouvent dans une forme de croisée des chemins avec une vraie difficulté à écouter. L'envie, le désir qu'il y a en elle, alors que tout autour d'elle, les personnes peuvent leur conseiller de détourner le regard. Et donc pour moi, c'est un texte qui dit très bien la nécessité de puiser à l'intérieur de soi pour trouver le courage d'avancer et pour finalement vivre de manière vivante.
Avec la nécessité, là, l'autrice parle d'intranquillité, mais moi je parle d'incertitude, de l'accepter, de l'accueillir et en fait... de l'entretenir presque pour continuer à se mouvoir, à se déplacer, à aller toujours plus loin vers nos intuitions les plus profondes.
Oui, ça me fait vraiment penser à une discussion avec un apprenant de l'année dernière qui m'a dit à un moment donné de l'année, ça devait être en mai, donc ça faisait longtemps qu'il avait intégré Nouvelle Voie, qu'il avait pris conscience que l'incertitude qu'il vivait depuis plusieurs mois et qu'il pensait... faire partie de son processus d'évolution professionnelle allait en fait désormais faire partie de toute sa vie. Que d'entrer dans un monde en transition, c'était accepter cette situation d'incertitude. Et il me demandait comment est-ce qu'on pouvait le supporter et le vivre. Et pour moi, ça vient vraiment poser la question de l'ancrage. C'est comment je peux m'enraciner, m'ancrer dans des endroits qui me permettent d'accepter et de bien vivre l'incertitude qui m'entoure.
Justement, on continue à naviguer en incertitude. Là, on est, ça y est, en 2030 glorieuse, dans un monde où on a réussi à changer de boussole. On va forcément pas partir du principe que tout est résolu, que tout est réglé, que le chaos climatique est entre autres derrière nous. Les choses sont malheureusement déjà bien lancées dans le mauvais sens, et à la fois notre société, ça y est, a réussi enfin à se remettre au service du vivant, à vouloir le préserver, le régénérer, ce vivant, mais aussi à reconnaître à quel point il peut apporter des richesses pérennes, durables, enthousiasmantes. On a plein d'autres boussoles, on va les définir ensemble, ces boussoles. Et donc, il va falloir parler au présent de ces 2030 glorieuses dans lesquelles nous sommes là pendant une vingtaine de minutes, le temps de notre conversation, Fanny. Il y a 10 ans, tu me racontais comment l'Institut faisait partie de ces précurseurs qui accompagnent au changement professionnel. Et j'imagine que ça a bien changé, non ?
Oui, ça a bien changé depuis. Je dirais que peut-être première chose qui a changé pour moi, c'est que désormais, on est dans un monde où les personnes réussissent à faire leurs choix assez jeunes. Ils ont peut-être les ressources et la capacité, à la fin du lycée, d'écouter ce qui les appelle pour choisir des études, peu importe les injonctions des profs, des parents. Et donc, ils s'embarquent dans des études qui vont être vraiment support pour vivre la vie qu'ils auraient envie de vivre.
Ça veut dire 3 choses, ça. Ça veut dire que, et d'une, on a réussi à faire en sorte de taire, de calmer au moins, de tranquilliser les injonctions de la société, des parents aussi, hein, et donc à redéfinir les indices de succès d'une société. Ça passe plus forcément par l'accumulation seule de richesses et d'une stabilité qui, à l'époque, était bien vue. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a réussi aussi à créer des cursus qui sont vraiment directement ancrés dans cette société de demain et qui proposent donc des métiers durables et solidaires. Et la troisième, c'est qu'on a réussi aussi à transformer notre système éducatif pour moins se concentrer sur les savoir-faire, mais plus sur les savoir-être. C'est fou, c'est beaucoup de travail qu'on a réussi à accomplir en 10 ans.
Oui, ça donne un peu le tournis, on va pouvoir bientôt se reposer.
Et à la fois sur cette question des savoir-faire, j'ai envie de t'y entendre, parce que c'est quelque chose que vous faisiez déjà de manière très très proactive il y a 10 ans en arrière. De quoi se sont inspirées les formations plus classiques et même le cursus scolaire depuis la petite enfance pour faire en sorte que justement les gens puissent se poser les bonnes questions sur ce qui va leur permettre de s'épanouir. Quels sont les savoir-faire que vous aviez déjà identifiés, quels sont les savoir-être que vous aviez déjà identifiés il y a 10 ans en arrière et qui sont désormais évidents et transmis au plus grand nombre ?
Oui, c'est une grande question. Pour moi, il y a plusieurs choses, mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose. Enfin, je reviens à cette capacité de choix qui, pour moi, est assez énorme. Si on regarde il y a 10 ans, beaucoup de personnes faisaient tout un tas d'actions. Sans avoir l'impression d'y consentir, puisque c'était normal ou puisque une autorité nous disait que c'est comme ça que ça devait être. Beaucoup de personnes avaient du mal à avoir une pensée personnelle, puisque c'est difficile et que c'était pas du tout quelque chose qui était valorisé ou travaillé. Et donc pour moi, les premiers savoir-être sont autour de ça. En fait, sont autour de comment est-ce qu'on permet à des personnes d'être attentifs à leurs désirs, à leurs envies, mais d'être aussi en capacité progressive de se positionner pour être en capacité de créer. Parce qu'au fond, c'est ça aussi, pour moi, permettre à des personnes de choisir, c'est permettre à des personnes d'être autrices de leur vie, au service aussi du monde qu'on a réussi à créer.
Tu parlais tout à l'heure d'ancrage. Et comment on a réussi à faire en sorte que les individus qui grandissent, s'épanouissent dans l'école, deviennent des bambous stables, solides et à la fois qui sont capables de se pencher en fonction du vent sans jamais rompre ?
Moi, j'ai l'impression que quand on a quand on a suffisamment de confiance en soi, mais ça se travaille, c'est parce que on nous fait des retours positifs, peut-être que c'est parce qu'on apprend de différentes manières et donc ça permet de raccrocher différentes personnes, enfin je sais pas, en étant plus sur du plus pratique ou du plus intellectuel ou en sortant aussi de l'école, en étant dehors dans le vivant, enfin, si on amène aux personnes à avoir une expérience positive de l'école et d'elles-mêmes et de leur capacité d'apport et de création, ça crée un ancrage qui permet derrière d'accepter plus facilement le risque et l'incertitude puisque on a une base sur laquelle on peut s'appuyer. Enfin, je pense qu'on a vraiment cet enjeu à faire grandir la zone de confiance des personnes pour que justement elles puissent aller dans une zone de risque de manière un peu plus sereine.
Il y a 10 ans, l'Institut accompagnait vers de nouvelles voies. Aujourd'hui, ces nouvelles voies, elles sont présentées dès le début du cursus scolaire. Et donc, cette intuition de l'Institut a été largement, en tout cas, ouais, copiée. Le système éducatif classique, public, se l'est réapproprié. Si bien que l'Institut a dû faire tout un tas de modifications, d'évolutions pour rester précurseur sur les questions de mise au service de ces énergies, de cette dynamique, de ces savoirs au service de la transition. À quoi ressemblent les formations proposées par l'Institut Transition en 2030 glorieuse ?
Bah là maintenant, il y a beaucoup moins besoin d'accompagner, je dirais largement, des personnes à évoluer professionnellement puisqu'elles ont anticipé cette quête de sens et d'utilité. Donc je pense que notre institut, il a peut-être deux grandes missions. Toujours cette mission de former les structures de la transition puisque ce sera devenu peut-être les structures classiques avec malgré tout des enjeux de développement, d'amélioration, je ne sais pas, des ressources humaines, de communication. Donc voilà, il y aura toujours cet enjeu de monter en compétence de ces structures pour que ça reste des vrais espaces où on crée le monde dont on a besoin. Et puis après, j'imagine des formations peut-être beaucoup plus précises qu'on pourrait imaginer sur des métiers qui sont des métiers...
Tu ne les imagines pas, Fanny, tu sais qu'elles existent. Hein.
C'est vrai, et qu'on pourrait continuer à imaginer, donc à celles qu'on fait maintenant. Mais typiquement, de se dire, là actuellement, on a un enjeu de continuer la revégétalisation de la ville qui est déjà beaucoup plus présente qu'il y a une dizaine d'années, peut-être qu'on pourrait on va lancer une formation sur des pépiniéristes urbains qui pourraient accompagner les personnes à observer la biodiversité urbaine, mais aussi à faire de nos rues, de nos places, de nos balcons, des refuges de biodiversité. Enfin, voilà, des métiers beaucoup plus précis qu'on aurait envie de promouvoir pour continuer cette transition qu'on aura bien avancée. On a bien avancé.
Donc effectivement, des besoins spécifiques que vous auriez pointé du doigt et donc accompagné. Et j'aurais l'impression aussi, en prenant un peu de hauteur, que vous avez décidé d'accompagner aussi à la coopération. Les communs étant devenus quelque chose d'essentiel, tant dans les produits que le savoir, il y a encore un vrai besoin d'accompagnement à la coopération, au partage. Est-ce que ça, c'est un flambeau qui a été repris par l'Institut Transition ?
Oui, complètement. Et pour moi, ça se fait à la fois à travers des formations pour outiller, pour amener... peut-être des stratégies ou redonner le sens que ça a, parce que souvent, il faut commencer par le sens, en fait, avant d'outiller. Mais ça se traduit aussi par plein d'espaces de rencontres entre les structures qui sont en eux-mêmes, en fait, des communs pour leur permettre d'échanger sur leur réalité et leur permettre de créer des ponts ensemble pour continuer à construire notre société.
On revient à cette idée d'incertitude. Et le climat, il reste encore très changeant. Le chaos climatique, la biodiversité qui, elle aussi, continue à vivre des modifications vraiment profondes dans les deux sens maintenant. Comment vous accompagnez les apprenantes et les apprenants à l'Institut à justement continuer à apprendre par elles-mêmes et par eux-mêmes ? Est-ce que vous avez une partie d'apprendre à apprendre d'une certaine manière ?
Oui, je pense que c'est une partie importante de la culture de l'Institut de se dire qu'on a à apprendre, je dirais, de compagnons et de compagnes qui ont déjà fait leur, qui font leur route depuis un moment, mais qu'on a aussi à créer ses propres capacités d'apprentissage en expérimentant, en osant se lancer et en ayant cette capacité derrière à formaliser des savoirs pour eux-mêmes pouvoir les transmettre. Donc ça, c'est quelque chose qui restera importante parce que c'est pour moi une des caractéristiques de ce qu'on appelle les artisans et les artisanes de la transition. C'est toutes ces personnes qui, aujourd'hui, comme il y a 10 ans, créer la transition dont on a besoin en développant les solutions, les alternatives qui doivent émerger pour nous permettre de mieux vivre malgré ces crises écologiques qui sont toujours présentes.
D'ailleurs, je l'imagine extraordinaire, ce réseau des artisanes et des artisans de la transition, non ? Ce sont des milliers et des milliers de personnes qui sont passées par votre école, par votre institut, depuis plus de 10 ans. À quoi ressemble ce réseau ? Comment vous continuez à le faire vivre ?
Eh ben, en fait, c'est un réseau, je dirais, qui est à la fois animé par nous, au sens où on continue à avoir des espaces d'échange. Ils sont devenus eux-mêmes formateurs, accompagnateurs. Donc, il y a quelque chose qui circule dans tout ça. Il existe aussi grâce à une formation, une association d'anciens et d'anciennes qui a été créée il y a 10 ans par les premiers anciens apprenants et qui avaient vocation à animer ce réseau-là. Et pour moi, et c'est le plus important, il vit parce que c'est des personnes qui sont dans l'écosystème de la transition. C'est-à-dire que les personnes que j'ai accompagnées ou formées il y a 10 ans, en fait, c'est mes collègues. Aujourd'hui, ils sont potentiellement permanents à Anciela, permanents à l'Institut, mais permanents à Mouvement de Palier, à Graines Urbaines, à The Greener Good, enfin à plein de structures avec lesquelles j'agis tous les jours. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est plus des anciens apprenants, c'est des partenaires, c'est des personnes avec qui j'agis au quotidien et qui ont rejoint finalement cette grande arche où on avait besoin d'un peu tout le monde.
Là où il y a 10 ans en arrière, l'Institut Transition pouvait se sentir un peu seul, il y a une grande communauté aussi des instituts, des écoles similaires qui accompagnent sur ces sujets qui a été créé.
Oui, c'est ça. C'est que, alors nous, on a jamais voulu partir de Lyon parce qu'on a... vraiment cette croyance qu'être ancré sur son territoire, ça fait beaucoup. Par contre, on a pu échanger avec plein de personnes qui étaient dans d'autres villes et qui avaient des intuitions similaires aux nôtres, mais qui ont construit des instituts qui avaient à la fois des points communs, mais aussi qui étaient faits de leurs particularités personnelles et locales. Et pour le coup, on a des espaces d'échange, on s'entraide pour continuer à avancer et accompagner ce mouvement de société.
Donc pas de copier-coller d'instituts transition partout en France.
Non, plutôt l'émergence de structures liées au territoire, mais avec lesquelles on aurait pu échanger pour faire des retours d'expérience, partager aussi nos découvertes et au fur et à mesure, nous apprendre d'eux et d'elles.
Ouais, je pense que ça dit aussi quelque chose de votre vision de cette permaculture des institutions d'accompagnement qui méritent d'être territorialisées, propres à l'expérience de chacune et de chacun, de porteurs de projets avec des identités fortes aussi. C'est nécessaire de cultiver cette singularité et cette complexité plutôt que de copier-coller un institut qui finalement, marchant très bien, aurait pu être propagé avec ses petits frères, ses petites sœurs partout sur le territoire.
Ah oui, ça dit beaucoup, je pense, de notre ADN, c'est-à-dire qu'on croit énormément dans les personnes, au sens où pour nous, notre institut, il est tel qu'il est, puisque y a Martin, il y a Clémentine, il y a Isabelle, il y a moi, il y a Lucas, enfin je vais pas faire toute la liste, parce qu'on a que 45 minutes, mais c'est des personnes qui ont des vraies personnalités, et l'institut a été créé par ces personnalités-là, avec aussi le regard qu'on avait sur notre territoire et ses besoins singuliers. C'est une petite mayonnaise qui est très particulière et qui peut pas être dupliquée par ailleurs. Il y aura à faire avec la mayonnaise de leur personnalité à eux. Bien sûr, par contre, on peut s'inspirer, on peut s'entraider. Mais je crois vraiment à la force des personnes et à la confiance qu'on doit leur donner pour créer des solutions qui soient sur mesure.
Ce que j'insinue par là aussi avec cette dernière question, c'est que aujourd'hui, en 2030 glorieuse, l'éducation, c'est beaucoup plus une transmission d'expérience et de réseau plutôt qu'un simple copier-coller dans un manuel. En fait, ça n'aurait pas eu de sens que l'Institut se déploie comme ça sans réfléchir parce que la mayonnaise avait bien pris à Lyon. Parce qu'au-delà de tout ce que vous apportez de connaissances, vous apportez surtout un réseau, vous apportez surtout une légitimité. Et donc, c'est ça en fait qui fait aujourd'hui la richesse et la singularité de cette éducation renouvelée.
Oui, tout à fait. Ça fait plusieurs années maintenant que pour expliquer l'intérêt du programme Nouvelle Voix, on dit bah, en fait, à la fin du cours, tu pourras aller boire un verre avec ton intervenant. Et en fait, si tu as envie de lui parler deux mois après, il sera toujours sur Lyon, il sera toujours là parce qu'il est ancré sur le même territoire que toi. Et ça, c'est pour moi, le réseau, parfois, c'est quelque chose qui fait un peu peur. Alors qu'en fait, c'est juste un tissu de relations qu'on peut mobiliser pour justement réussir à faire advenir ce qui nous tient à cœur.
Toi, Fanny, tu fais quoi en 2030 Glorieuse?
Ben je crois que je vais continuer encore comme ça, à accompagner les personnes, parce que je crois que c'est vraiment là ma place. Et puis, peut-être que je vais quand même me lancer dans le jardinage, parce que ça fait un moment que j'en ai envie, avec un petit jardin partagé pour produire un peu de nourriture.
De toute manière, en 2030 Glorieuse, on ne travaille plus que 4 jours par semaine, tu le sais bien.
Voilà, donc ça me laisse plus de temps. Après, j'ai pas vraiment l'impression de travailler, donc c'est toute la
c'est
difficulté.
Ça. Ouais, c'est ça. Et ça pose aussi la question, et peut-être que c'est mon avant-dernière question, parce que vous, en fait, à l'Institut, vous avez réussi à faire en sorte que les gens passent du travail à l'emploi. Ça, tu saisis cette nuance, et si oui, est-ce que tu peux me raconter comment vous avez réussi à faire ça?
Mais c'est vrai que, enfin, pour faire le lien avec ma blague de juste avant, en disant j'ai pas l'impression de travailler, c'est vrai que pour moi personnellement, il y a une frontière qui est très limitée entre je sais pas, la vie pro, la vie perso, le travail, l'engagement. Enfin, pour moi, en fait, Anciela ou l'Institut, c'est mon œuvre, en fait. Enfin, c'est au sens où c'est ce que j'ai envie de vivre et d'apporter, sans que ce soit un système de contraintes ou une nécessité. Et donc, je pense, en partant de ce que je vis là, que c'est ça qu'on essaye de transmettre aux personnes, en leur permettant naturellement de vivre des choses à côté, puisqu'on est des personnes complexes et que... une œuvre seule ne correspond pas forcément à l'entièreté de notre personnalité. On peut avoir envie à côté de jardiner ou de faire de la musique, et c'est tout à fait nécessaire à un épanouissement personnel.
Dernière question pour toi, Fanny. On est de retour en 2022. Les personnes qui nous ont écoutées se sont dit « Mais moi aussi, en fait, j'ai envie, là, ça y est, de me mettre au service de cette transition. J'ai envie de changer ma carrière professionnelle, en tout cas de lui donner une autre direction. » Quel est le conseil que tu donnes à ces personnes pour faire advenir ces 2030 glorieuses qu'on a brossées ensemble? Quel est le pas supplémentaire qu'elles peuvent faire là dès à présent?
Je dirais que peut-être la première chose, c'est d'en parler. Je crois que beaucoup de personnes sont seules avec cette envie-là, et en se disant bah, je vais être raillée ou on va pas me comprendre si j'en parle. Mais non, mais parlez-en à vos proches, parlez-en à des moins proches qui sont sur les mêmes dynamiques que vous, et si vous avez besoin d'en parler plutôt à des structures d'accompagnement, passez la porte d'une structure d'accompagnement pour avoir des personnes qui vont vous écouter et qui vont vous donner confiance en cette petite voix que vous entendez depuis longtemps. Donc voilà, je vous conseille de passer le cap et d'en discuter autour de vous, et je suis sûre qu'il y a des opportunités qui se présenteront.
Il y a des ressources peut-être nationales qui existent pour les personnes qui justement se posent la question des formations à rejoindre pour changer de métier.
Oui, je vous conseillerais peut-être d'aller notamment sur le site de Make Sense, qui recense un certain nombre de formations sur ces questions de transition. Donc ça peut être l'occasion de voir ce qui existe près de chez vous. Et on essaye aussi de le faire, nous, Institut Transition, même si on est localisé, on recense aussi des acteurs un peu plus larges dans le cadre d'articles. Donc il ne faut pas hésiter à regarder de ce côté-là aussi.
Merci Fanny.
Merci à toi.
Et voilà, cet épisode avec Fanny Viry est terminé. Je trouvais très nécessaire de pouvoir continuer à donner la parole à des personnes qui travaillent dans le milieu de l'éducation. Je sais que l'épisode avec Marie Petit vous avait beaucoup plu. J'ai eu de très nombreux retours positifs sur le travail de Marie, pour rappel, qui est directrice d'école et professeure. Là, avec Fanny, venait se poser la question de l'apprentissage tout au long de sa vie. J'ai trop entendu, moi, dans la mienne de vie, que bah voilà, quand on sortait des bancs de l'école, quand on terminait ses études, alors ça y est, on avait terminé d'apprendre, on était des adultes entre guillemets finis, et qu'on ne pouvait plus changer, qu'on ne pouvait plus modifier nos habitudes, qu'on ne pouvait plus même, pourquoi pas, rejoindre un nouveau destin professionnel, ou en tout cas que c'était quelque chose de vraiment très difficile, très coûteux, tant sur le plan financier qu'en matière d'énergie. Ce que je voulais montrer avec Fanny et le travail qu'ils font à l'Institut Transition, c'est qu'au contraire, aujourd'hui, faire ce pas qui peut sembler immense est en réalité pas si complexe que ça, puisqu'il y a des instituts, il y a des écoles, il y a des professionnels qui accompagnent toutes les personnes qui souhaitent justement donner une autre orientation à leur carrière professionnelle et faire, comme le disait très bien Fanny, donner à sa vie, donner à son travail une nouvelle couleur, puisque ça devient un emploi. N'hésitez pas à aller consulter le site de l'Institut, que vous soyez lyonnais, lyonnaise ou pas, puisque comme vous l'avez compris, l'Institut Transition recommande aussi pas mal d'autres alternatives présentes sur tout le territoire qui vous permettront de faire enfin le métier qui vous fera vous sentir profondément vivant. Voilà, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des 2030 Glorieuses et merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !